tu veux aller ? Allez, mon grand ! Allez, mon grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es grand !
Muscle ton jeu ! Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant.
Bonjour à nos sportifs et nos sportives, et bienvenue pour une nouvelle saison de Time Out dans un tout nouveau format. Pour lancer cette nouvelle saison, j'ai avec moi Travis.
Bonjour.
Alima.
Bonjour.
Et Baptiste.
Bonjour.
Alors, je vais vous parler d'un tout nouveau format cette saison, puisque nous allons commencer cet épisode par un petit quiz d'actualité sur le sport, bien évidemment. Et oui, chers chroniqueurs et chroniqueuses, on vous met au défi dès le début de l'émission avec 10 questions. Celui qui répond le plus rapidement gagne un point. C'est donc celui qui a le plus de points qui remporte le quiz du jour. Allez, c'est parti. Première question. Qui a remporté le championnat du monde de MotoGP fin septembre ?
Marc Marquez.
C'est ça. Effectivement, pour la 7e fois de sa carrière. Deuxième question. Qui a remporté l'US Open le 7 septembre dernier ?
Yannick Sinner.
Ben non.
Alcaraz alors.
C'était donc bien Carlos Alcaraz qui a gagné 3-7-1 contre Yannick Sinner. Troisième question. Quelle nouvelle règle a été testée lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans ?
Le carton vert.
C'est ça. Effectivement, qui permettait donc à l'entraîneur de faire appel à l'arbitrage vidéo comme une sorte de challenge comme au tennis. Quel club de rugby vient de perdre son trophée de Pro D2, c'est-à-dire le championnat de 2e division française de rugby ?
Montauban.
Oui, c'était donc bien Montauban, puisque le trophée a été perdu dans une foire agricole alors qu'il était présenté dans les villages voisins de Montauban, comme le veut la tradition. Cinquième question. À combien a été mesuré Victor Wembanyama lors de la pré-saison en mètres ?
2m24.
Oui, Victor Wembanyama a bien été mesuré 2m24 lors de la pré-saison. Il a grandi d'1,25 cm sur un an. Allez, un petit récapitulatif des points. Pour l'instant, on a Baptiste qui est leader avec 4 points, Alima qui a 1 point, et Travis qui malheureusement n'a pas de points, mais je sais Allez. Qu'il va pouvoir remonter la pente. Sixième question. Combien de passes décisives a délivré Lionel Messi en sélection, constituant ainsi un nouveau record pour le niveau international?
60.
Oui. C'était donc bien 60 passes décisives. Il a ainsi dépassé Neymar qui était à 59 passes décisives. Septième question. Qui a remporté le championnat d'Europe de basket en septembre?
C'est l'Allemagne.
Oui, c'est ça, c'était bien l'Allemagne qui a gagné 88-83 contre la Turquie. Huitième question. De quelle nationalité était le golfeur qui a permis à l'Europe de conserver la Ryder Cup?
Irlandais.
Effectivement, il était bien irlandais. Il s'agit de Shane Lowry, qui a fait un match nul et qui a en fait permis aux Européens de s'imposer chez les Américains en plus. Allez, neuvième question et avant-dernière question. Quel pays vient de battre le record du plus grand nombre de victoires à la suite en foot ?
Maroc.
Oui, c'était bien le Maroc avec 16 victoires tout de même. Dixième et dernière question. Quel champion du monde 2018 a rejoint récemment Canal+, en tant que consultant ?
Steve Mandanda.
C'est ça. Bien joué. Steve Mandanda, qui est donc jeune retraité depuis le 10 septembre, l'ancien gardien marseillais, et qui a donc rejoint Canal+, en tant que consultant. Bon, et bien, félicitations à Baptiste, qui gagne haut la main ce quiz du jour, et qui gagne ce premier quiz de cette deuxième saison de Time Out. Bravo.
En effet, merci beaucoup.
Bien, on poursuit ce nouveau format avec une autre nouveauté, le débat commun. Et oui, toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses a décidé de parler d'un sujet commun, qui a marqué le mois d'octobre, au moment où on tourne cette émission. Et aujourd'hui, il s'agit du Grand Prix Explorer. La course, organisée par le streamer Squeezie au circuit Bugatti du Mans, était à sa 3e édition, intitulée The Last Race. Comme indiqué dans son nom, il s'agissait de la dernière édition de cette course entre streamers. Alors cette année, pas d'anciens favoris comme Sylvain, Etienne Moustache, Despiello ou Le Bouzeux, mais qui se sont quand même battus dans une course des légendes, dans des voitures de type Ligier JSP4, qu'on peut retrouver dans des courses comme les 24 heures du Mans. Néanmoins, on a retrouvé des pilotes des anciennes éditions, avec bien évidemment Squeezie, Maxime Biaggi, en quête de terminer une course après avoir abandonné au GP2, Katsup, ou encore Gotaga. On retrouve aussi des nouveaux avec Amine, Anime, il ne faut pas confondre entre les deux, Léa et lui, et des internationaux entre les Espagnols Kerchez et Ander, les Américains Ludwig et Michael Reeves, et même la Québécoise Cocotte, accompagnée de la Suissesse Bagheera Jones. L'édition s'est déroulée du 3 au 5 octobre avec les victoires de l'Espagnol Kerchez pour l'écurie Cupra lors de la course sprint du samedi et de la course The Last Race du dimanche. On notera aussi les concerts du vendredi soir et du samedi avec des artistes comme SCH, SDM, Vald, Théodora, Gazo ou encore Tiakola. Voilà pour la remise en contexte. J'aimerais maintenant savoir, les chroniqueurs et chroniqueuses, comment avez-vous trouvé ce GP par rapport au précédent GP, bien sûr, mais aussi en tant que dernière édition.
Alors concernant ce GP, j'ai trouvé qu'il a tenu toutes les promesses d'un dernier GP organisé donc par Squeezie et qu'à aucun moment j'ai trouvé cet événement décevant, voire je pense que ça a été un des meilleurs événements sportifs de ces dernières années. Je pense qu'il a réellement été un vecteur de solidarité et un événement qui a pu réunir tout le monde. Le fait même qu'il ait pu être diffusé sur France 2, c'est quand même un média principal, un média qui réunit d'autres âges que ceux qui sont sur Twitch principalement. Donc je pense que ça a permis de créer une réelle innovation finalement dans le sport, mais également de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ce genre de contenu. Et ce qui peut permettre aussi, par la même occasion, à un réseau comme Twitch de se développer, mais aussi en fait à d'autres sportifs de se rendre compte qu'il n'existe pas seulement certains sports majeurs, mais que d'autres sports peuvent se développer et peuvent aussi avoir une importance majeure, comme on a pu le voir avec cet événement.
C'est vrai que surtout qu'il me semble que ça fait quand même pas mal d'audience aussi sur France 2, j'ai plus les chiffres, mais c'est vrai que ça a bien marché aussi sur France 2 et sur Twitch, surtout bien évidemment. Donc ouais non, intéressant, c'est très intéressant effectivement cette codiffusion entre les deux médias. Sinon pour le reste des chroniqueurs, qu'est-ce que vous avez à retenir un peu de ce GP?
En fait je pense que c'est vraiment l'idée de ramener le sport automobile au devant de la scène pour des personnes qui sont surtout sur les jeux vidéo. Quand on regarde, on a eu des anciens professionnels comme Gotaga, Nikoff, qui étaient surtout sur Call of Duty pour Gotaga, Fortnite pour Nikoff, et actuellement ils font une course de F4, et bah personne ne les connaissait. Ça met en valeur des personnes qui sont très humaines, comme Squeezie, qui était la vedette du coup, vu que c'est son moment. Et ça permet aussi à d'autres personnes, comme Ali Maladi, de ramener des personnes dans le train, grâce à France 2 par exemple, qui regroupe des publics autres que les personnes sur Twitch. Et ça permet aussi de faire, que j'aime bien dans cet événement, c'est que ça permet de faire découvrir aux jeunes le monde du sport à travers leur personnalité préférée.
C'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, de base, ce sont des streamers qui ont joué aux jeux vidéo pour la plupart. Et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi à conduire des voitures de F4. Non, c'est vrai que c'est grandiose. Puis même Squeezie, qui pareil, lui aussi, part de vidéos dans sa chambre et qui finit par réussir à organiser trois grands prix. Ça, c'est fou. Donc, franchement,
oui.
Ouais.
Oui, c'est dingue. Et en plus, l'événement a été animé de A à Z, comme tu as pu le dire, avec les concerts ou même sur la piste, l'ambiance qu'il y avait, les dépassements, on a accès aux radios, les trash...
Le truc des radios cette année, oh, c'était incroyable.
Les trash talk qu'il y avait, j'ai adoré.
D'ailleurs, le trash talk de Squeezie sur Gotaga, apparemment...
Lui, il est faux.
Apparemment, il est faux parce que Squeezie le dit avant de le dépasser, et c'est juste qu'à la réalisation, ils l'ont mis après.
Justement, je veux parler de ça. La réalisation faite par la production autour du GP est trop bien faite. Surtout, j'avais entendu parler que c'était Carnage qui a un peu à l'origine du récit qu'il y a autour du GP. Et je trouve que c'est trop bien fait parce qu'en fait, même vers la fin, moi, ça me donnait presque la larme à l'œil parce que vraiment, il t'emmène dans ce GP sans que tu te dises oui, c'est des streamers. C'est pas simplement des streamers, c'est des humains. Ils se retrouvent pour finir un truc qu'ils avaient commencé depuis 6 mois. C'est le côté humain qui était mis en avant, j'ai l'impression...
C'est ça, ouais, non, mais c'est effectivement un carnage à la réalisation. Puis il y a aussi Olivier Denis qui réalise beaucoup de grands événements sportifs français. Je sais plus exactement lesquels, mais j'avais entendu effectivement parler. On en a pas parlé aussi, mais la communication autour de l'événement.
La communication, elle est incroyable. Le trailer est tout simplement magnifique. Ouais. Ils ont ramené des chanteurs pour faire la promo. Mm-hmm. Dans un album, je sais pas comment on appelle ça.
L'album qui a été produit et qui me semble a été
co-dirigé par Squeezie et SCH.
C'est ça, et qui est aussi disque d'or, je crois, oui. J'ai vu passer l'info.
Exactement, oui.
Très récemment.
Et le single vedette d'Amanda Lode qui est platine. L'ambiance autour est incroyable, et même France 2 a réussi à s'adapter à ce monde qui est nouveau pour eux, de Twitch, etc. Ils ont réussi à ramener du monde, comme Rivenzi, qui a été un de leurs chroniqueurs, pour pouvoir, entre guillemets, montrer ce que ça fait d'être streamer dans un groupe télévisé comme France TV, qui ne connaît pas trop ce monde.
Moi, pour être très honnête, j'avais au début, quand j'ai vu un peu le casting du GP avec du coup les favoris qui malheureusement, enfin les anciens favoris qui ne seraient pas présents, j'étais un peu déçu. Mais au final, comme c'était la dernière édition, j'ai vraiment profité en fait de l'événement pour le coup. Et honnêtement, je n'ai pas du tout été déçu. C'était vraiment incroyable. La fin avec le public qui allume les portables. Oui. Pareil, ça aussi, c'est
et la musique, la musique en boucle.
Oui, la musique en boucle. C'est, franchement, c'est cette fin de la fin. Je pense qu'on avait tous les larmes à l'œil, quoi. Non, mais c'est vrai que c'était assez, assez bluffant.
Mais en fait, c'est pour ça que quand je dis que c'est un événement qui, pour moi, a marqué les dernières années, je pense que je vais aller plus loin et que, pour moi, on a vécu ça uniquement avec les Jeux Olympiques derniers. L'intensité qu'il y a eu, tout ce mouvement d'enthousiasme pour cet événement-là, je pense qu'on a rarement vécu quelque chose comme ça ces dernières années. Et je pense sincèrement que c'est un événement qui peut marquer dans le temps. Et concernant la diffusion sur France 2 aussi, je pense que ça peut être un élément qui va permettre d'entraîner d'autres événements dans cette diffusion-là. Mais attention à ce que ce ne soit pas anecdotique. Là-dessus, j'apporte une petite nuance là-dessus. Je pense qu'on l'a vu avec les derniers Jeux Olympiques. Certains événements, notamment les Jeux Paralympiques, on a pensé que ça allait permettre d'être un vecteur de diffusion énorme, etc. Et en fait, ça s'est affaibli au fur et à mesure. Donc attention à ce que ce ne soit pas le cas aussi avec cet événement-là.
Oui, notamment sur le fait que ça retombe pas dans quelque chose de plus classique, qu'on s'habitue pas en fait à un tel niveau de programmation et qu'en fait on dise qu'ensuite tous les projets qui viennent après sont moins bien que ce qu'on a vu. C'est ça l'idée. Ouais. Bien, et bien maintenant on va continuer. On va passer à nos traditionnelles chroniques, puisque chaque chroniqueur et chroniqueuse va vous présenter à leur tour un sujet qu'ils ont décidé de parler aujourd'hui. Puis, on va débattre de leur sujet après leur présentation. Et je vais donc commencer par ma chronique. Alors, avant de démarrer ma chronique, je voulais dédier celle-ci à Paul-Antoine, alias PA, ancien secrétaire du Troisième Lieu, et surtout à la direction de cette émission jusqu'à l'année dernière, et qui a quitté le média. En tant que fan de cyclisme qu'il est, ma chronique portera donc sur ce sport, et en particulier sur deux jeunes Français en grande forme en cette fin de saison. Et puisque le hasard fait bien les choses, ma chronique, qui est donc dédiée à Paul-Antoine, portera sur les coureurs Paul Magnier et Paul Sexas. Le hasard fait donc bien les choses. On va ainsi découvrir qui sont ces deux jeunes talents, pourquoi ils sont vus comme des prodiges, et surtout s'ils sont capables de rivaliser avec les tout meilleurs cyclistes du monde. On va commencer par le plus vieux des deux, enfin vieux, pas vraiment, Paul Magnier. Paul Magnier est un sprinter de l'équipe belge Soudal Quickstep et âgé de 21 ans. Il est né au Texas, aux États-Unis, car son père travaillait dans l'industrie de l'automobile. Le jeune Français est ensuite retourné dans l'Hexagone, d'abord à Besançon, puis à Grenoble, à l'âge de 3 ans. C'est son père, d'ailleurs, qui l'a lancé dans le cyclisme, puisqu'il était ancien coureur amateur à Vaux-en-Velin. Mais Paul est dans un premier temps passionné par le VTT au club de Charvieux-Chavagneux, dans l'Isère. Il fait sa jeune carrière dans ce club, où il intègre le Pôle France Jeune VTT. Au fur et à mesure des années, il s'intéresse au cyclo-cross et au cyclisme sur route. Il remporte notamment deux étapes du Giro della Lunigiana avec son équipe iséroise en 2022 dans les provinces de la Spezia en Italie. Il termine aussi quatrième des championnats du monde sur route junior la même année. En 2023, il signe son premier contrat professionnel avec l'équipe britannique Trinity afin de poursuivre à la fois le VTT et le cyclisme sur route. Finalement, en novembre 2023, l'équipe belge de la Soudal Quickstep remarque son talent et Paul Magnier signe et se fait remarquer dès son premier jour de course par une victoire au trophée Ses Salines Felanix dans les îles Baléares en Espagne. A partir de là, le palmarès de Magnier s'étoffe. Dans les plus notables, on notera une victoire d'étape au Tour d'Oman et trois victoires d'étape au Tour de Grande-Bretagne en 2024. 4 victoires d'étape au Tour de Slovaquie et au Tour de Croatie, une victoire à la flèche de Heist en Belgique et une victoire d'étape au Tour de Pologne en 2025. Enfin, et je les ai gardés à part, les 5 victoires d'étape autour de Guangxi pendant ce mois d'octobre 2025, qui lui a permis d'atteindre 19 victoires lors de la saison 2025, une première dans l'histoire du cyclisme français depuis 1997 avec Laurent Jalabert, et ses 19 victoires aussi, et surtout un record depuis la création du World Tour en 2005. Le Français est le deuxième cycliste avec le plus de victoires cette saison, juste derrière un certain Tadej Pogacar et ses 20 victoires cette saison. Même si le Français a participé à des courses d'une envergure moins importante que des coureurs du circuit mondial habituel, ça n'enlève pas moins son exploit à la vue de son âge. Et maintenant, on sait qu'en 2026, le programme sera beaucoup plus chargé et complexe pour Paul Magnier. En attendant, ce dernier devrait connaître pas mal de classiques car ce sont sur ces types de courses d'une journée où il pourrait progresser avant de redevenir un sprinter pour les tours en printemps-été. Surtout qu'avec le départ de la star de l'équipe, Remco Evenepoel, il y a une place à prendre potentiellement pour des grands tours. Passons maintenant à Paul Sexas. Paul Sexas est né en 2006 à Lyon et n'a que 19 ans. Il a littéralement mon âge. Contrairement à Paul Magnier, Paul Sexas est un coureur complet capable de tenir dans la montagne. Le jeune Français a découvert le vélo grâce à son grand-père, alors que l'amour de la compétition lui est venu de son père, pratiquant de karaté à haut niveau. À 8 ans, il rejoint le club Lyon Sprint Evolution, puis en 2021, il rejoint le club de Villefranche-Beaujolais avant de rejoindre l'équipe U19 d'AG2R Citroën en 2023. Au moment d'intégrer l'équipe professionnelle, il est déjà champion de France sur route cadet, champion de France cyclocross et 4e et 5e des championnats de France sur route 2022 et 2023. Il poursuit ensuite son évolution en remportant en 2024 le Giro della Lunigiana et en terminant sur le podium du championnat d'Europe sur route avant d'être sacré champion du monde du contre-la-montre junior. Avec un palmarès déjà aussi fourni à cet âge, c'est donc logiquement qu'il signe professionnel à 17 ans le 18 septembre 2024 chez Decathlon AG2R La Mondiale. Alors que moi je ne travaillais toujours pas, excusez-nous monsieur Sexas. En 2025, il a déjà marqué les esprits en réussissant à prendre la 8e place du Critérium du Dauphiné et à remporter le Tour de l'Avenir, soit l'équivalent du Tour de France Junior. Mais c'est surtout en équipe de France que le public français le découvre, en finissant 13e au championnat du monde sur route et médaillé d'argent au contre-la-montre par équipe en relais mixte à Kigali, au Rwanda, en septembre 2025. Plus dernièrement, il a fini médaillé de bronze au championnat d'Europe sur route et a terminé 7e du Tour de Lombardie en Italie, où il devient le plus jeune coureur à intégrer un top 10 d'un monument du cyclisme à 19 ans et 17 jours depuis 1917. Invité sur RMC le lundi 13 octobre, Paul Sexas a affirmé qu'il allait s'aligner sur un grand tour en 2026 sans en dévoiler lequel. D'ailleurs, le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, lui a conseillé d'attendre avant de se lancer dans le Tour de France, en raison de l'énorme médiatisation et pression qu'il va subir en tant que Français. Le Français de 19 ans a tout de même beaucoup de potentiel, puisqu'il a réussi à suivre le rythme de l'ogre slovène Tadej Pogacar lors des Mondiaux et du Championnat d'Europe, même s'il a fini par craquer face à la puissance du meilleur coureur au monde. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de la Paul Magnier dans le peloton, et qui plus est, étant tous les deux Français, risque de rabattre les cartes ces prochaines années sur les meilleurs coureurs du monde, que ce soit en sprint, en classique, dans la montagne et sur les plus grands tours. Peut-être va-t-on assister dans les prochaines années à la fin de la longue attente d'un maillot jaune, français, à Paris au Tour de France, qui pour rappel date de 1985 avec Bernard Hinault. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet, j'aimerais savoir si vous pensez que Paul Magnier peut devenir un futur maillot vert du Tour de France et Paul Sexas un futur maillot jaune du Tour de France.
Je pense que pour Paul Sexas, ça risque d'être très compliqué parce que en face tu as Tadej Pogacar, tu as Jonas Vingegaard, tu as Marco Evenepoel, t'as que des grosses têtes qui sont très jeunes, qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience. C'est pas comme si tu affrontais un Pogacar qui avait 19 ans, qui avait peu d'expérience sur les grands tours et qui venait juste de débuter. Donc pour moi ça va être très compliqué. Je pense qu'il peut décrocher 2-3 fois des victoires en Tour de France et qu'il peut avoir une ou deux fois le maillot jaune, mais je pense pas qu'il le gardera à Paris tant qu'il y aura Pogacar et Vingegaard sur leur vélo. Et pour Paul Magnier, je pense que pour lui, ça peut être plus facile et voir que dans les 5 prochaines années, il peut le récupérer à Paris.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que tant que les coureurs actuels ne prendront pas leur retraite et qu'ils continueront à faire des circuits et à courir, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Dans les deux cas, je pense que ce sera compliqué. Tout dépend de ce qu'on entend par dans les prochaines années, c'est-à-dire que pour moi, dans 2-3 ans, ça va pas être possible, mais que potentiellement, dans 5-10 ans, ils ont totalement leur chance et je pense qu'ils ils peuvent rivaliser dans un top 10, on va dire. Mais de là à obtenir les titres, je pense que ça peut être réellement compliqué et qui malheureusement, on voit ça beaucoup trop dans les sports individuels aujourd'hui où il y a une grande domination d'un ou de deux sportifs et en fait, derrière, c'est très compliqué de suivre.
Après, il faut quand même rappeler que Paul Sexa n'a que 19 ans. Il est très jeune. Oui, voilà. Tadej Pogacar, par exemple, en a déjà 27.
C'est pour ça que je dis que dans 2-3 ans, ce serait compliqué, mais au fur et à mesure, pourquoi pas.
Dans les futures années, potentiellement, il peut quand même devenir un grand espoir. Quoi.
Mais je pense qu'il peut décrocher, par exemple, dès son deuxième tour, il peut décrocher une victoire d'étape, Paul Sexa, et dans 5 ans, il aura le maillot jaune au moins une fois sur ses épaules. Et Manier, je pense que ça peut être plus rapide parce que t'as moins de grosses têtes au niveau du sprint. Etc. Et t'as moins de domination, c'est plutôt un partage de la couronne plutôt qu'une couronne divisée en deux.
Après, moi je pense que Paul Sexa, moi je le décris vraiment comme un diamant brut qui. Il a vraiment tout pour casser le top 10. Pour moi, le top 10, il peut largement le faire, mais le top 5, en fait, ça va jouer au niveau du mental aussi, si le mental suit. Parce que en face, il aura du Vingegaard et Pogacar, donc ce sera à voir avec le temps. Mais pour moi, j'ai confiance en Paul Sexa et je pense qu'il peut, faire de grandes choses.
C'est vrai que pour Paul Magnier, ça peut être beaucoup plus rapide. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quand même, déjà en 2026 les courses que les deux vont faire, parce que c'est à peu près certain que les deux vont faire quand même des grandes courses. Et déjà de voir où ils se positionnent par rapport aux grands concurrents. Ça va être intéressant, je pense. Vraiment, partant de 2026, je pense que ça va être très intéressant.
Ça, je pense qu'il faut regarder les prochaines courses et qu'il y a aussi beaucoup d'autres paramètres dont il faut tenir compte, ne serait-ce que les blessures. Il y a quand même pas mal d'enchaînements en général pour les cyclistes. Donc je pense que en cas de blessure, je ne souhaite pas à Pogacar et tous les autres coureurs, mais je pense qu'ils peuvent, dans ces moments-là, pourquoi pas tenter leur chance. Et même à eux, à leur rythme, je pense que c'est un rythme auquel il va falloir qu'ils s'habituent. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup de courses. Et je pense que des blessures peuvent vite arriver. Et surtout eux qui sont jeunes, malheureusement, il faut qu'ils fassent attention là-dessus aussi.
Et puis ça dépendra aussi de l'équipe qu'ils auront, les coéquipiers, les coureurs qu'ils auront avec eux aussi. Cesse de le rappeler, mais le cyclisme est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe.
Tout à fait.
Donc ça dépend pas mal de facteurs. Mais en tout cas, on a quand même, je pense, deux espoirs français qu'il faut quand même suivre, en tout cas à partir de 2026.
Ça c'est sûr.
Et j'espère que Paul Sexa ne va pas se lancer trop tôt sur le Tour de France. Comme a annoncé Vingegaard, je pense qu'il ne faut pas qu'il grille les étapes. Il faut qu'il fasse d'abord un Giro, d'abord une Vuelta. Qui voient ce que c'est un grand tour à tenir sur 20-30 courses avant de se lancer sur la grande boucle.
Oui, c'est ça. Puis surtout que le Tour de France, c'est vraiment la course par le tour par excellence. Alors qu'il y a quand même la Vuelta et le Giro qui sont des grands tours aussi, mais qui sont d'une moins grande envergure, en tout cas moins médiatisés, un peu moins médiatisés. Mm. Et je pense que oui, ça fait un bon parallèle déjà, pour savoir un petit peu déjà juger un peu le niveau de Paul Sexa sur 3 semaines dans des grands tours.
Et la plupart du temps, en plus, le style Vingegaard, Pogacar qu'ils les font, ils les font en tant qu'échauffement pour le Tour de France. Et dans ces cas-là, toi, tu vas la jouer pour gagner, eux, ils vont la jouer pour s'entraîner. Mm. Donc, tu as plus de chances de pouvoir te confronter à eux et de voir ce que ça donne une vraie compétition 100% face aux deux ogres. Et pour Paul Magnier, je pense que par exemple des courses style le Liège-Bastogne-Liège pourraient lui convenir en tant que classique et essayer d'acquérir de l'expérience pour qu'il devienne un sprinter expérimenté. C'est l'expérience qui manque aux deux, mais qu'il devienne un cycliste expérimenté, un sprinter expérimenté et qu'il puisse faire des éclats au Tour de France, au Giro, à la Vuelta, etc.
Bien, maintenant nous allons passer à Baptiste qui va vous parler des deux cousins du tennis.
Bonjour à toutes. Bonjour à tous, je vous le dis tout de suite, je suis un peu paniqué à l'idée de faire ma première chronique au troisième lieu. À vrai dire, je fais comme tous les tennisman français à domicile, je perds mes moyens quand il faut performer. Comme vous avez pu le comprendre, je vais vous parler de tennis, mais surtout du dernier Master 1000 qui s'est achevé le 12 octobre à Shanghai avec deux sensations francophones. Car oui, on n'a malheureusement pas pu entendre la Marseillaise résonner sur le court central. Ces deux joueurs ont vraiment reçu toute la lumière qui leur est due après avoir brillé avant ce tournoi de Shanghai avec 2 huitièmes de finale au tournoi ATP pour l'un et 2 performances en quart de finale du Challenge Cup ATP pour le second. Nous allons donc revenir sur ce tournoi qui va rester dans l'histoire du tennis français avec Arthur Rinderknecht et Valentin Varechaud. On va suivre les parcours des deux tennismen pour observer leur prouesse sportive. Pour commencer, Valentin Varechaud est un monégasque de 26 ans qui a été classé 204e mondial avant le tournoi. Il s'est inscrit au Master 1000 de Shanghai sur un coup de tête, ou un coup de raquette si vous préférez, mais sans placement très haut dans le classement ATP, il a été obligé de passer par les qualifications, alors que Rinderknecht, son cousin français de 30 ans et 54e mondial, a pu se reposer, car il était directement inscrit dans le tableau principal. Varechaud s'est fait peur à deux reprises lors de ses matchs de qualification, en encaissant le premier set, mais en retournant la vapeur à chaque fois. Après cela, les deux protagonistes ont pu commencer leur parcours dans le tableau principal avec des parcours différents. Tout d'abord, le français Rinderknecht l'a échappé belle au premier tour grâce à l'abandon de son adversaire alors qu'il était mené au score. Il a ensuite affronté 4 joueurs du top 20 d'affilée avec, dès les 16e de finale, Zverev, 3e mondial, ou même Medvedev, 18e mondial, en demi-finale. Varechaud, le monégasque, a eu un parcours un peu plus simple avec seulement 2 joueurs classés dans le top niveau mondial, avec Bublik numéro 17 mondial en 18e de finale ou la légende Novak Djokovic 4e mondial en demi-finale. Le monégasque a aussi eu une victoire par un abandon en 8e alors que, contrairement à son cousin, il menait sa rencontre. En finale, les deux cousins se sont donc affrontés, mais comme l'a dit Rinderknecht, on a déjà gagné, en parlant de sa relation avec Varechaud après leur qualification en finale. Le monégasque s'est imposé alors que le tricolore avait pris le premier set. Le score final est de 6-4, 3-6, 3-6. Pour l'anecdote, si on regarde tous les classements et tous les masters, tous les tournois depuis 20 ans, la principauté de Monaco a gagné plus de titres que la France. 1-0, tout simplement. Pour la suite, Rinderknecht a gagné 26 places au classement et se place donc 27e mondial. Varechaud, qui est le premier joueur classé plus de 200e à l'ATP à gagner un Master 1000, bondit de 164 places, aussi haut qu'un bond d'Armand Duplantis, et devient le 40e joueur mondial. Les deux cousins ont tous les deux demandé une wildcard pour le Rolex Paris Master qui a été accepté le mardi 21 octobre. Au moment où l'on tourne, le tournoi va démarrer le 25 octobre. Pour la question de la chronique, je demande à tous les chroniqueurs: est-ce qu'un Français peut devenir une référence mondiale et gagner des tournois? Si oui, lequel?
Alors pour répondre à la question, je pense que des Français peuvent devenir des références mondiales et avoir des records, voire gagner des tournois à plusieurs reprises sur une même année, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui, le tennis peut permettre cela à la France. Ces dernières années, ça a été un petit peu compliqué. Mais je pense que là, ils sont sur une bonne lancée, avec beaucoup d'espoir. Notamment, je pense en premier à Corentin Moutet, qui, à mon avis, peut battre à plusieurs reprises plusieurs adversaires, voire des adversaires de grande ampleur. Et je pense qu'ils ont totalement leur chance, que ce soit au niveau masculin comme au niveau féminin, avec Louise Boisson qui est actuellement classée 37e. Je pense qu'elle a totalement la possibilité de devenir une grande championne, d'autant plus qu'elle est jeune. Donc elle a totalement le temps, la possibilité d'améliorer son jeu, de devenir de plus en plus forte et de gagner à plusieurs reprises des tournois. Pour ce qui est des masculins, je pense aujourd'hui que Hugo Humbert est celui qui est le mieux placé. Ne serait-ce qu'en chiffres, il est actuellement 24e au classement. Donc je pense qu'il a totalement la possibilité de gagner et de devenir une grande référence. Mais je pense aussi à Corentin Moutet. Je pense que voilà, aujourd'hui, Corentin Moutet est celui qui, à mon avis, a un jeu assez particulier et qui peut permettre de rester dans les mémoires, que ce soit en France comme à l'étranger.
Moi, j'aime bien ton optimisme, parce que moi, je suis pas du tout optimiste sur le jeu français au tennis. Parce que, oui, il y a certainement Loïse Boisson, du côté féminin, qui, personnellement, c'est celle qui m'a le plus plu dans son jeu. Mais du côté masculin, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le... On fait du spectacle, ça veut dire on va retenir les matchs jusqu'au cinquième set et tout. Mais on va pas chercher à avoir la fin de victoire, de titre.
Je comprends le point de vue que tu donnes là-dessus. Maintenant, je pense aussi qu'on a la chance au tennis d'avoir plusieurs sportifs français qui peuvent se détacher. Et je pense que justement, cette impulsion-là peut permettre d'avoir cette envie-là de gagner des titres qu'on n'avait peut-être pas avant. Dans le tennis, il y a ce truc-là aussi de sportifs qui dominent, malheureusement ou heureusement pour eux et heureusement pour le tennis. Des sportifs qui dominaient, bon, à l'époque, c'était il y a encore quelques temps, mais il y avait Raphaël Nadal, Novak Djokovic, etc. Donc je pense qu'actuellement, ils ont cette possibilité de se détacher et de commencer à titiller ceux qui sont un petit peu plus devant. Et pourquoi pas de gagner des titres avec un élan qui, à mon avis, en France, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un élan de positivité de la part du public français. et même à l'étranger, qui peut permettre aux tennisman français d'être encouragés pour pouvoir gagner des titres et avoir peut-être plus cette soif, en effet, de victoire, de titre, plutôt que de proposer un beau jeu, comme tu en parlais juste avant.
Alors moi, j'aimerais juste déjà dire qu'on a quand même beaucoup de Français qui performent dans le tennis mondial. Là, j'étais en train de compter, on en a plus d'une dizaine qui sont dans le top 100 mondial, quand même au classement ATP. Avec des noms qui commencent à être connus, Hugo Humbert, Arthur Fils, Arthur Rinkdorknecht, j'arrive jamais à le dire, pardon, désolé. On a encore Giovanni Empchi, j'arrive pas à le dire non plus, Péricard, pardon, désolé, je broie les noms. On a aussi Corentin Moutet, Alexandre Muller, Benjamin Bonzi, Adrien Manarino, Arthur Cazot, Gaël Monfils, même si Gaël Monfils, si je ne dis pas de bêtises, il prend sa retraite l'année prochaine.
Oui.
Voilà, c'est ça. Donc on a quand même beaucoup de talents français. Ce qui manque encore, je trouve, c'est qu'on n'arrive pas à passer ce cap d'aller loin dans les grands tournois, notamment les quatre grands tournois mondiaux du Grand Chelem, où malheureusement, généralement, les Français perdent dès le troisième tour. Ça, c'est un peu problématique, mais c'est vrai qu'on arrive à faire quelques performances quand même dans des tournois plus petits, en tout cas. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive enfin à pallier, à réussir à passer ce cap de réussir dans les grands tournois, parce que c'est actuellement, c'est ce qui manque, et c'est ce qui fait aussi que le public français a du mal à vraiment s'enthousiasmer sur le tennis français, même si on a vu avec Loïs Boisson, Roland Garros de cette année, qu'il suffisait de pas grand-chose pour que justement le public français soit enthousiaste. Donc, moi, c'est l'impression que j'ai. Mais vu le talent qu'on a, je me dis, on peut quand même... Il y en a quand même bien un de tous ces tennismen français qui va réussir à un moment donné quand même à aller loin dans un tournoi. Malheureusement, pour l'instant, on le voit toujours pas, donc je commence un peu à douter de ça.
Si je devais répondre à ma propre chronique en ayant les chiffres devant moi, etc., il y a Arthur Fils qui est tout jeune, qui a moins de 22 ans, qui s'est blessé cette année.
C'est ça,
qui n'a pas pu faire beaucoup de tournois cette année et qui a un gros potentiel, qui a déjà tenu en échec des gros stars, etc. Et qui, je le regarde devant moi, 18 tournois.
Ouais, c'est
seulement. Ça. Alors qu'on regarde des personnes style Corentin Moutet, comme t'as parlé, qui fait 26 tournois. Et c'est Arthur Fils est toujours devant, par exemple.
La moyenne, elle a 25, 26, 30 tournois. Quoi.
La moyenne, elle est au-delà de 23 tournois pour chaque personne. Et donc, pour moi, je pense que c'est vraiment Arthur Fils que j'attendrai avec Loïs Boisson. Loïs Boisson, je pense qu'elle peut être très forte sur tout type de terrain. Je ne pense pas que c'est un exploit sur terre battue.
J'attends de voir quand même, surtout type de terrain, terre battue, j'en doute pas une seule seconde. Mais j'attends de voir quand même tout terrain parce qu'elle a quand même déçu sur Wimbledon. Bon, on rappelle que c'était son premier tournoi, il me semble, sur gazon. Pareil à l'US Open aussi, elle a déçu. Alors, elle a un nouveau coach depuis récemment. Donc, peut-être qu'elle va s'améliorer sur ce terrain. Mais il me semble que c'est un coach qui est plutôt spécialisé en terre battue. Donc j'attends de voir si effectivement elle va réussir à se spécialiser dans les autres types de terrain, ou en tout cas à s'améliorer dans les autres types de terrain, ou si elle va rester que sur de la terre battue. Mais j'attends de voir quand même, parce que bon, cette année du coup j'ai été un peu déçu, la deuxième partie de la saison j'ai été un peu déçu sur le fait qu'elle se fasse éliminer si tôt. Bon après, c'est déjà une très grosse saison de faire une demi-finale de Roland-Garros, surtout qu'elle a été blessée plusieurs mois avant, donc c'est quand même un très gros retour. Mais voilà, j'attends de voir quand même pour Loïs Boisson. Même si je pense qu'il y a moyen qu'elle arrive à monter très rapidement dans les plus fortes du circuit mondial.
Et au pire, si elle fait des quarts de finale tous les ans à Roland-Garros, le public français sera content et retiendra son nom.
Mais ça, c'est certain. Hein. C'est certain que, effectivement, surtout Roland-Garros, tournoi français, le public français va forcément se souvenir d'elle.
Donc au pire, qu'elle performe que sur terre battue, en fait j'aimerais bien qu'elle fasse partie du top 20 mondial, et je pense que pour faire partie du top 20 mondial, il faut être performant sur tout type de terrain. Mais si elle fait des quarts de finale tous les ans à Roland-Garros, tout le monde serait content et tout le monde la féliciterait. Elle aurait les yeux rivés de toute la France et tous les supporters de tennis français autour d'elle. Tout de suite, je passe la main à Halima avec sa chronique sur les qualifications au mondial de football.
En effet, 104 matchs, 3 pays d'accueil, 48 équipes. On peut déjà l'affirmer, la Coupe du Monde 2026 sera une Coupe du Monde de la démesure. Et cela se voit déjà par les matchs de qualification qui se termineront en mars 2026. Le principe des qualifications est simple. Pour se qualifier, il faut terminer premier de son groupe, dans le cas de l'Afrique et de l'Europe. En Amérique du Sud, un tournoi a lieu grâce auquel les 6 premières équipes sont qualifiées directement. Pour l'Amérique du Sud, plusieurs tours éliminatoires ont lieu avec une phase de groupe. Dans le cas de l'Amérique centrale, du Nord et des Caraïbes, Trois pays restent à être qualifiés, en plus des trois autres, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada. À la fin, 46 équipes sont désignées et il n'en reste plus que deux, ayant leur place grâce aux barrages intercontinentaux, excluant l'Europe qui a son propre système de barrages internes, entre les deuxièmes de chaque groupe. À ce jour, 28 équipes sont qualifiées. Parmi elles, les pays organisateurs que nous avons cités précédemment, le Mexique, les États-Unis et le Canada. En zone Afrique, il s'agit du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, du Ghana, du Cap-Vert, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Pour l'Amérique du Sud, il y a l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur et la Colombie, ainsi que le Paraguay, tandis que la Bolivie est en barrage intercontinentaux. En Asie, les 8 qualifiés sont le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. En barrage, il s'agira soit de l'Irak, soit des Émirats Arabes Unis. Pour la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande est qualifiée et la Nouvelle-Calédonie est en barrage intercontinentaux. Pour l'Europe, seul un pays est actuellement qualifié et il s'agit de l'Angleterre. Certains pays bénéficient de l'élargissement du nombre de participants grâce aux 48 équipes qui seront qualifiées. Et dans ce cas, ils peuvent l'être pour la première fois. Par exemple, le Cap-Vert fait partie des grandes sensations de ces phases de qualification en ayant battu par 3-0 l'Eswatini. Il devient aujourd'hui le plus petit pays à participer à cette compétition. En juin 2025, c'est la Jordanie qui a été qualifiée pour la première fois en battant Oman, tout comme l'Ouzbékistan, qualifié pour la première fois après un nul contre les Émirats Arabes Unis. D'autres équipes signeront leur grand retour, comme l'Algérie qui n'avait pas participé ni en 2018 ni en 2022, après avoir été en quart de finale en 2014 face à l'Allemagne. La Côte d'Ivoire était aussi absente pour les deux dernières éditions, et plus anciennement, l'Afrique du Sud n'avait pas participé depuis 2010 où la Coupe du Monde avait été organisée sur son territoire. La Coupe du Monde 2026 est un enjeu primordial pour des nations comme l'Italie, qui compte se relancer après ses absences aux deux dernières éditions, malgré sa victoire dans la compétition à 4 reprises. Elle n'est pas encore qualifiée aujourd'hui, mais actuellement deuxième de sa poule, à égalité de points avec la Norvège. Le groupe des qualifications pour la zone Europe, le groupe A, est lui aussi à suivre, avec une Allemagne qui, gagnante en 2014, mais éliminée prématurément en 2018 et en 2022, à la suite des phases de groupe. Elle a aujourd'hui à cœur de réussir avec une équipe alliant jeunesse, notamment avec Florian Wirtz, Jamal Musiala, et une équipe alliant aussi l'expérience, grâce à Kimmich, Müller ou encore Manuel Neuer. D'autres équipes surprennent, car ayant le statut de favorites, elles ne réussissent pas autant que ce qui était attendu. La Suède, par exemple, devait pouvoir compter sur le vainqueur du Gerd Müller Trophy 2025, Victor Gyökeres, mais est actuellement troisième derrière la Suisse et le Kosovo dans son groupe dans la zone Europe. L'autre surprise, à la fois positive et négative, de ces qualifications est la France, qui a aussi présenté certaines faiblesses lors du dernier rassemblement. Entre les blessures, les polémiques et la courte victoire, par 2-1 face à l'Azerbaïdjan, ajoutée au nul contre l'Islande, 2-2. Certaines équipes profitent quant à elles de la grande forme de leurs joueurs, illustrant eux aussi une Coupe du Monde de la deux mesures. Harry Kane, meilleur buteur de l'Angleterre, malgré une absence contre le Pays de Galles, a fortement contribué à la victoire 5-0 de son équipe contre la Lettonie, grâce à un doublé. Cette victoire leur a permis d'être qualifiés pour la Coupe du Monde. En Égypte, Mohamed Salah a lui aussi marqué un doublé, garantissant la qualification de son équipe. La Norvège peut compter sur Haaland, auteur d'un triplé contre Israël. La course au record prend place elle aussi en France, avec Mbappé qui est à 53 buts, soit 4, avant de devenir le meilleur buteur de sa sélection devant Olivier Giroud. Aux Pays-Bas, Memphis Depay est lui aussi devenu le meilleur buteur de sa sélection lors de ses qualifications. Cristiano Ronaldo vient quant à lui de battre avec 41 buts, le record du nombre de buts marqués lors de qualifications pour la Coupe du Monde, tout en s'approchant de son 950e but en carrière. Je vous donne donc rendez-vous au mois de novembre pour suivre la suite de ces qualifications et découvrir quelles seront les nouvelles équipes qualifiées pour le Mondial et cette 23e édition qui aura lieu du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026. La question que je souhaite vous poser est de savoir si vous êtes emballé à l'idée de ce nouveau Mondial et de ce nouveau format et si vous êtes conquis par ces qualifications.
Alors moi déjà, pour parler du format des qualifications, je trouve que les qualifications sont bien et au niveau plutôt continent africain, je trouve que c'est varié quand même au niveau des pays et c'est pas les pays les plus classiques qui sont amenés. Notamment, j'avais vu qu'il y avait le Haïti qui est, pas côté africain, mais c'est côté pays que j'imaginais pas dans ma tête aller au mondial. C'est pays comme Haïti qui va disputer le mondial 2026. Il y a le Sénégal, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé au mondial. Il y a le Cap-Vert aussi. C'est tous ces pays-là où on s'attend pas trop à qu'ils viennent au mondial. Et ça rajoute de la diversité, c'est bien, mais... Et maintenant, ça dérive un peu vers le sujet du mondial. Pour moi, le mondial dans ce format à plus d'équipes, ça me plaît pas trop parce que ça laisse trop de possibilités. Il y a plus cet engouement à venir au mondial. Alors qu'avant, on venait au mondial. Un pays, en 2014, il allait au mondial, il se disait, c'est ouf pour tout un pays. Alors que maintenant, vu qu'il y a 48 équipes, c'est un peu comme une Ligue des Champions où t'as juste des équipes qui veulent se disputer à travers le monde, quoi.
De toute façon, le format à 48 équipes, ça ouvre beaucoup la possibilité en fait, à des équipes qui n'ont encore jamais participé à la Coupe du Monde de pouvoir y participer. Après, le problème un peu aussi de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a eu des histoires où il y a des favoris qui n'arrivaient pas à se qualifier à la Coupe du Monde parce que avant c'était limité à 32 et voilà. Alors qu'aujourd'hui, avec 48 équipes, bon, tous les favoris ont quand même de grandes chances de se qualifier à la Coupe du Monde, normalement.
Normalement, l'équipe de France.
Bon, l'équipe de France, ça va.
Je m'inquiète pas pour l'équipe de France, mais c'est pour la Suède, comme elle a pu le citer, où je m'inquiète un peu, quoi.
Même l'Italie. Qui pour l'instant est deuxième derrière la Norvège.
Exactement.
Non mais donc, tu passes par les qualifs, au pire.
Tu passes par les barrages en Europe, par exemple.
Ouais.
Mais du coup, c'est un peu le problème de cette ouverture aussi à 48 équipes, c'est qu'en fait, ça donne plus de chances aux favoris de se qualifier, alors que dans l'histoire, on s'est arrivé qu'on a des grands favoris, des favoris historiques qui ont paraissé à se qualifier, parce que le nombre de places est limité. Donc moi, c'est ce qui peut me déranger un peu avec ce nouveau format. Après, moi, ce que j'aime bien avec ce nouveau format, c'est que justement, il y a des équipes qui se sont jamais qualifiées en Coupe du Monde, qui sont très loin dans les classements FIFA et qui parviennent justement à se qualifier. Et ça, je trouve ça beau. C'est quand même formidable d'avoir des équipes qui ont pratiquement pas de budget, qui jouent avec des joueurs semi-pro voire amateurs, qui travaillent à côté et qui se retrouvent quand même en Coupe du Monde. Et ça, c'est quand même exceptionnel, c'est bien. Donc voilà, c'est un peu l'avis que je me fais de cette Coupe du Monde. Après, j'attends de voir quand même tout ce qui est la question écologique quand même de cette Coupe du Monde qui se déroule dans trois pays, avec tous les déplacements à faire, qui va se passer en plus en été. Bon, on verra bien. Et puis sinon, par rapport à ces qualifications, moi j'ai surtout suivi l'équipe de France, donc je pourrais parler de l'équipe de France qui se fait avec le nombre de blessés qu'il y a, mais fait le strict minimal, je trouve, pour l'instant, dans ses qualifications. Mais bon, premier avec 3 points d'avance sur l'Ukraine. Pour l'instant, c'est quand même plutôt à leur avantage. Mais sinon, sur ces qualifications, il y a eu les belles histoires, bien sûr. On a parlé du Cap-Vert, mais aussi quelques équipes qui assurent largement leur qualification. Je trouve que c'est des qualifications qui sont assez classiques, globalement, hormis quelques histoires.
Je suis d'accord sur ça. C'est des qualifications qui sont vraiment ni plus ni moins pour moi. C'est-à-dire que tu as des surprises. Tu as des pays qui assurent le strict minimum. Tu as des pays qui rament un peu. Tu as des pays qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais ce qui m'énerve par-dessus de tout, avec une Coupe du Monde à 48 équipes, c'est de te dire que tu vas avoir des écarts de niveau qui vont être démentiels.
Oui. On l'avait déjà vu en 2022 en plus.
On l'avait déjà vu en 2022, mais là, si juste mentalement, imaginez-vous que l'Espagne, champion d'Europe, avec leur équipe actuelle, affronte le Cap-Vert. Quel est le score que vous pensez actuellement ?
Ça va être ça compliqué. Bon, après, on sait pas. À tout moment, le Cap-Vert gagne contre l'Espagne.
Pourquoi pas ?
On a déjà vu des surprises comme ça.
Mais c'est vrai que...
À la dernière Coupe du Monde, on a par exemple l'Arabie Saoudite qui gagne contre l'Argentine. On pense que l'Argentine est dans une crise, alors que, au final, il gagne. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Et puis même, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là. On pourrait se dire, mais mon Dieu, mais ils vont affronter des grosses équipes. Comment ils vont faire face à eux ? Ils vont être plus impressionnés par les joueurs en face d'eux que vouloir jouer la compétition. Et en même temps, je pense que justement, c'est encore une fois un motif d'encouragement pour eux et de se dire qu'ils ont la capacité. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent, quoi qu'il arrive. Et donc, affronter ce genre d'équipe, même on ne sait pas quand est-ce qu'ils les affronteront. S'ils les affrontent à la fin et que l'Espagne est déjà assurée d'être qualifiée, l'Espagne peut potentiellement moins jouer. Et pour s'assurer de jouer correctement les matchs des 8e, etc., même des 16e, vu que ce format nécessite d'avoir des 16e de finale. Donc je pense en fait au contraire que ça leur laisse totalement leur chance, même si, je suis d'accord, 104 matchs de Coupe du Monde, pour moi c'est énorme et c'est presque ridicule.
À la fin, là tu finis à 48 équipes, tu as besoin de rien pour faire partie des 32 meilleures équipes, alors que lors des dernières Coupes du Monde, les 32 meilleures équipes, c'est ceux qui faisaient la Coupe du Monde. Le format, je crois, va évoluer encore d'un cran pour les mondiaux qui vont arriver. La FIFA veut encore avoir plus d'équipes. Mais pour moi, ça tire à la fin au ridicule. Tu vas qualifier tous les pays ?
Et puis même, en termes d'organisation, Antonin l'a dit, mais sur 3 pays, c'est énorme. On se rend compte que pour pouvoir accueillir toutes ces équipes, il y a besoin d'énormément de territoires, énormément de places, sans parler de la construction des stades qui ne sont pas construits pour certains pays. C'est un coût en termes économiques, un coût en termes écologiques. Et puis en termes d'organisation, c'est quand même pas évident du tout.
Comme vous le savez, la Coupe du Monde 2026 arrivera en juillet. De toute façon, je pense qu'on en reparlera certainement dans l'année.
Pour la prochaine chronique, on va écouter Trévis qui va nous parler des diffuseurs.
Bienvenue dans cette chronique qui parlera de l'apparition de nouveaux diffuseurs. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler foot, plus précisément de ce qui se passe en dehors du terrain. On va notamment discuter de la guerre des diffuseurs pour la Ligue 1 et d'un nouveau, le streamer Zach Nani. La bataille de la Ligue 1, un feuilleton sans fin. Depuis quelques saisons, c'est un vrai casse-tête. Qui va diffuser la Ligue 1 ? Après le fiasco Media Pro, Canal+, Prime Video, Beansport et dernièrement DAZN, plus personne ne veut vraiment mettre les millions qu'on voyait auparavant. Résultat, la Ligue de football professionnelle a décidé de reprendre les choses en main avec sa plateforme Ligue 1+. Une chaîne 100% Ligue 1 avec 8 matchs sur 9 diffusés chaque week-end. C'est une petite révolution puisque la Ligue devient elle-même diffuseur, un peu comme les plateformes de streaming et leurs films, par exemple Disney+, Paramount, HBO Max. Cette révolution s'accompagne aussi de limites, notamment sur le plan des streamings illégaux, notamment Telegram qui est une application où plein de personnes vont se retrouver pour regarder les matchs de manière inégale. La Ligue de football professionnel essaie de lutter contre ça, notamment par le déréférencement des moteurs de recherche qui permettrait de lutter contre le piratage notamment. Mais cette nouvelle chaîne n'est pas sans risque. Il faut attirer des abonnés, produire du contenu, gérer la technique, surtout faire oublier les anciens traumatismes type Media Pro. Pour le contexte, L1 Plus est à l'initiative de Nicolas Detavernost, directeur général de la LFP depuis le 23 avril 2025, d'après le communiqué de la LFP, et ex-dirigeant de M6, il a décidé de prendre en main le projet L1 Plus. Là, on a parlé de L1 Plus, mais le projet L1 Plus a un coût aussi pour les clubs, parce que les clubs, eux, de leur côté, retiennent leur souffle. Les droits TV, c'est la principale source de revenus pour les clubs. Moins d'argent, ça veut dire des budgets plus serrés et des transferts plus prudents. Pendant ce temps-là, les spectateurs jonglent entre plateformes, un match ici, un résumé là, un replay ailleurs. Pas simple d'y voir clair. Hein. C'était mon point sur la Ligue 1. Et pendant ce temps-là, un streamer rentre en scène, Zach Nani. Pour ceux qui ne connaissent pas Zach, c'est un streamer français très suivi sur Twitch et YouTube. À la base, il part de jeux vidéo, d'actu, parfois de sport. Mais cet été, il a frappé un grand coup. Il a racheté les droits de diffusion en France de la Saudi Pro League, le championnat d'Arabie Saoudite. Oui, vous avez bien entendu, un streamer devient diffuseur de foot. Et il diffuse les matchs en direct sur Twitch et YouTube gratuitement avec ses commentaires, sa communauté, son analyse. C'est une première en France et ça montre à quel point le paysage audiovisuel est en train de changer. Zach Nani ne se contente pas de commenter, il produit, il diffuse, il attire un jeune public qui regarde moins la télé, même si, on le verra par la suite, il essaye quand même de se rattacher à une autre génération qui n'est pas forcément sur Twitch. Et le succès est au rendez-vous, des dizaines de milliers de spectateurs, pour des shorts YouTube, on parlait de millions de vues, des discussions, il y a même des mèmes, de l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment ce qu'il essaye de créer à travers les matchs. C'est un tout autre rapport au foot, plus communautaire, plus interactif, plus vivant. Le streamer français ne s'est pas contenté de simplement racheter les droits de diffusion pour la Ligue saoudienne. Il vient tout récemment d'acquérir les droits pour diffuser les matchs des espoirs de l'équipe de France. Cette nouvelle acquisition qui s'est faite très récemment est source de débats, notamment par la LFP qui réclame que les matchs de l'équipe espoir soient aussi diffusés sur L1+. Et le streamer a entendu les plaintes notamment de la LFP et a affirmé dans un entretien accordé à l'équipe qu'il était ouvert aux discussions pour discuter avec la Ligue de football professionnel. Donc on voit qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de s'être créée pour le foot français. Alors du coup ça interroge, est-ce qu'on regardera de nouveau la Ligue 1 sur Beansport ou Canal+ ou Amazon, donc les médias traditionnels, ou est-ce qu'on passera par des plateformes, des applis, voire des chaînes animées par des créateurs de contenu ? Le modèle de Zach Nani, c'est un peu l'exemple que tout le monde regarde. Il a montré qu'on peut faire du foot autrement, sans les moyens des grandes télés, mais avec une vraie proximité avec son public. Et ça, la LFP l'a bien compris. On parle déjà d'intégrer plus d'influenceurs de la communication autour de Ligue 1+, pour capter un public plus jeune. Mais attention, il y a aussi des limites. Les droits TV restent chers. La production coûteuse, j'avais vu les chiffres, on était à 66 millions en moyenne annuelle pour le coût de production. Et tout le monde ne peut pas s'improviser diffuseur du coup. L'équilibre entre accessibilité, qualité et rentabilité reste fragile. Donc pour conclure, on voit qu'entre la bataille des diffuseurs traditionnels et l'arrivée de nouveaux visages comme Zach Nani le streamer, le foot français vit une vraie révolution. Les matchs ne se jouent plus simplement sur les pelouses mais aussi sur les plateformes. Les publics changent, les habitudes évoluent et la Ligue 1 doit suivre le mouvement. Donc j'ai un débat pour vous. Est-ce que vous pensez que Twitch peut remplacer les médias traditionnels pour regarder du foot ou pas ?
Honnêtement, je ne pense pas que Twitch prendra la place des grands diffuseurs. Je pense que ce sera simplement un média de substitution par rapport à la Ligue 1, notamment. L'exemple de Zach Nani est assez parlant parce que c'est le plus récent et que c'est un symbole assez fort. Mais je pense que, par exemple, Ligue 1 Plus est un grand succès. Je pense sincèrement que c'est un média qui va être reconduit l'an prochain, enfin pour la saison prochaine. Et je pense honnêtement que ce qu'il propose est une avancée par rapport à ce qu'on avait auparavant sur Canal+, Beansport, etc. Même si je pense qu'il faut faire attention aussi, c'est que certains matchs, je pense au cas de l'Olympique Lyonnais notamment, qui a eu, je pense que c'était le troisième match là, qui n'était pas diffusé sur Ligue 1 Plus directement, mais qui était diffusé de manière plus tardive et qui était auparavant diffusé sur Beansport. Et je pense que là où Twitch peut t'aider, c'est que on aurait en tout cas plus ce problème de se dire qu'il faut payer deux abonnements, un pour Beansport pour pouvoir regarder le match, plus celui de Ligue 1 Plus parce qu'on ne sait pas si le match sera diffusé à l'heure ou s'il sera diffusé plus tardivement et est-ce qu'on pourra réellement regarder le match. Donc je pense que là-dessus, c'est là où il y a encore des efforts à faire, mais qu'en termes de programmation, Ligue 1 Plus est un grand succès. Et je ne pense pas que, par exemple, les matchs de Ligue 1 seront diffusés sur Twitch, etc. au fur et à mesure.
Pour moi, c'est une réussite Ligue 1 Plus. Mais Zach Nani peut, petit à petit, avec d'autres streamers, etc., acquérir des droits qui seront de plus en plus grands et qui pourraient, par exemple, diffuser des matchs de Coupe de France. Je pense que des matchs de Coupe de France seraient plus à sa portée que des matchs de Ligue 1. Parce que des matchs de Coupe de France, quand tu regardes, tu peux diffuser de la Nationale, tu peux diffuser de la Nationale 2, ou même de la Nationale, la Ligue 2, etc., qui sont moins médiatisés, qui sont moins représentés, sans Ligue 1+, sans Bein, etc., sans l'équipe 21, qui diffuse des fois des matchs de Ligue 2, je crois. Ça pourrait clairement aider, ça devrait clairement être une cible pour Zach Nani. Quand j'ai suivi ce feuilleton des droits TV, au début, je me suis demandé pourquoi Bein Sport lâcherait pas son match de Ligue 1. Au dépens de perdre de l'argent, ils se focuseraient vraiment sur tous les autres championnats européens. Parce qu'ils ont les droits pour la Bundesliga, ils ont des droits pour la Liga, ils ont des droits pour la CIA, ils ont quelques matchs pour la Première Ligue, je crois. Ils ont des matchs de plein d'autres sports, etc. Et qu'ils lâchent complètement la Ligue 1. La Ligue 1 100% gérée par Ligue 1 Plus, mais par contre mieux gérée, avec des possibilités de voir les matchs hors multiplex, c'est-à-dire il y a 4 matchs en même temps, d'en choisir un seul, de le regarder à 100%. Mais dans ces cas-là, ça demanderait plus de personnel, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que Ligue 1 Plus a réussi à faire ce qu'Amazon a raté avec un abonnement moins cher. Et je trouve que l'idée de Ligue 1 Plus, c'est l'idée de tout championnat. Et je pense que ça va être repris dans d'autres championnats s'ils n'arrivent pas à trouver d'accord.
Il y a notamment un streamer anglais qui a racheté le droit pour un match, je sais pas si c'était de Coupe d'Allemagne ou de Bundesliga, si je crois que c'est Bundes, c'était pour Leipzig-Bayern, c'était un streamer anglais qui a pu racheter des droits d'un grand championnat, donc on peut voir que c'est possible d'un côté aussi qu'il y ait des streamers qui regardent. Il faut vraiment s'adapter aussi, il faut avoir le financement. J'avais regardé un stream de Zach qui expliquait ça, c'est que quand on parle en termes de milliers d'euros, ça peut aller pour un streamer, mais quand on parle en millions, c'est plus dur pour juste une personne.
Oui, et c'est surtout que lui, contrairement aux chaînes télévisées, il ne fait pas payer l'abonnement. Oui. C'est que si tu fais des subs, là on rentre dans Twitch, etc. Mais si c'est toi volontairement qui donne de l'argent pour l'aider financièrement, et c'est lui ce qui l'acquérit avec le visionnage, etc. Si ses vidéos sont monétisées, etc. Mais là on rentre plutôt dans tout ce qui est vidéo. L'argent qu'il récupère, c'est lui tout seul. Et donc je pense que vraiment, avoir un match de Ligue 1, ça va être très compliqué pour lui sur les prochaines années, surtout si la Ligue 1 Plus marche à ce point. Mais des matchs de Coupe de France ou de National sont à sa portée.
Alors moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Juste peut-être rappeler aussi l'avantage de Twitch, qui est d'avoir la possibilité d'avoir un chat et donc de pouvoir parler avec sa communauté par rapport justement aux plateformes et aux chaînes de médias traditionnels qui ne permettent pas ça. Et c'est vrai que dans un monde où on cherche de plus en plus à avoir un rapprochement entre finalement le public et le média, c'est vrai que Twitch, c'est quand même en soi une bonne idée. Mais comme vous l'avez dit, voilà, ça risque d'être difficile pour un streamer comme Zach Nani de pouvoir avoir les droits de la Ligue 1. Honnêtement, c'est presque impossible. Parce qu'en plus, là, si je me trompe pas, il diffuse notamment donc la Saudi Pro League et les Espoirs. Mais par exemple, c'est pas lui qui paye les techniciens qui vont les filmer, la réalisation. Lui, il paye seulement les droits de diffusion. Donc c'est quand même toujours moins cher que de devoir tout gérer derrière la réalisation et tout, quoi. Donc c'est vrai que je vois mal diffuser la Ligue 1. Mais par contre, il peut y avoir des partenariats avec la Ligue 1 pour, par exemple, de faire des avant-matchs ou faire des après-matchs, faire des débriefs avec des joueurs, des interviews. Mais dans ce cas-là, ça serait un peu une concurrence avec quand même la Ligue 1+, qui font déjà ça sur leur chaîne.
D'un côté, Zach Nani ramène du monde, etc., qu'il connaît. Et ça fait venir d'autres personnes de la communauté, etc. Mais de l'autre, je pense que si ça marche autant, la Ligue 1+, pourrait être intéressée si, par exemple, Bein lâche son match de diffusion. Et bien, la Ligue 1+, pourrait être amenée à récupérer ce dernier match et à le diffuser sur Twitch. Et je pense que ça peut être une très bonne idée.
Alors, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à le diffuser sur Twitch, ce dernier match? En soi, s'ils ont tous les matchs sur Ligue 1+.
Ça peut refaire venir du monde, jeunes, et qui n'ont pas les moyens de se payer.
À la rigueur, oui.
Mais en fait, je pense que Beansport doit lâcher son match qu'il diffuse et le donner à Ligue 1+, tout simplement, et pas forcément sur Twitch. Je pense que vraiment, Ligue 1+, c'est un nouveau format qui va marcher. Vraiment, j'en suis convaincue. Et qui marche déjà assez bien maintenant. Qui propose de réelles choses, de réelles nouveautés. Ne serait-ce qu'avec le fait de pouvoir voir dans les coulisses avec les arbitres comment ça se passe, quand les capitaines relisent la fiche de match, etc. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ou ne serait-ce que quand on voit, en fait, tout simplement, tous les débriefs d'après-match, les joueurs qui viennent sur le plateau pour pouvoir discuter de tout cela. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit possible avec Twitch. Malheureusement pour Twitch, je pense que ce serait pas possible, mais par contre, comme tu le disais tout à l'heure Baptiste, je pense que Zach Nani ou d'autres streamers, pour eux ce serait possible de pouvoir diffuser, par exemple, en effet des matchs de National, pourquoi pas de la Coupe de France, même si ça appartient déjà au service public, il me semble France 2 et France 3 diffusent des matchs de Coupe de France, donc il aurait peut-être un débat là-dessus, et en termes d'accessibilité, ce serait peut-être plus simple de pouvoir voir des matchs de Coupe de France sur France 2 que sur Twitch.
Pour un peu finir le débat, je voulais dire que le format de Zach aussi, c'est quelque chose qui est un peu nouveau et que je trouve vachement plus plaisant pour regarder un match de foot. C'est que le format, c'est pas seulement on commente, on analyse le match de façon linéaire comme fera un commentateur ou un analyste. C'est on débat comme si on était dans un canapé entre potes. Il y a ce format très familial. Comme il dit si bien dans ses streams, il veut se faire kiffer. Donc on va pas en apprendre plus à travers ses streams. En tout cas, sa volonté, c'est de passer un bon moment avant tout d'en apprendre.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce premier Time Out saison 2, avec la participation de Trévis, Alima et Baptiste, et présenté par moi-même, Antonin. Merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve prochainement. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.